Les amateurs de découverte musicale se donnent rendez-vous le 7 mai dès 19h30 au Club Soda pour la grande finale des Francouvertes. Les porte-paroles Clopel Gag et Tire le Coyote ouvriront la soirée, suivis par les trois finalistes, Lou-Adrian Cassidy, Laef et Crab. Au programme, pop-folk hybride, hip-hop jazz, soul, électro et punk déjanté. Soyez présents et contribuez au choix des lauréats de la 22e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de SiriusXM.
Il est minuit moins une.
Minuit moins une?
Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition.
C'est quand?
Du 8 au 19 mai.
Oh, c'est où?
Au Monument National et au Ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals.
On est minuit moins une théâtre et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor.
On vous attend. Billets, vuesurlarelève.com.
Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
What's up? Joe RCA, baby, they dead obese et vous êtes à l'écoute de Choc.
You say you got drugs, homie, tell me where they at.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Mon nom est Jean-Michel Bertion, mais aujourd'hui, ça me fait plaisir de dire bonjour, Mégane. Quoi?
Allô?
C'est
allô?
Aïe, ah, crie.
Tu m'entends-tu?
J'ai une forme d'enthousiasme qui est incomparable à la tienne, semblera aujourd'hui. Bienvenue à Pop 171. C'est exact. On est-tu à la bonne place?
Oui, 171. Et aujourd'hui, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, parce que tu l'avais déjà pas mal teasé comme il faut là, la semaine dernière, on va parler de la série canadienne, Reboot. Donc moi, ça me fait retourner à mon enfance parce que quand je me souviens, en fait, je me souviens pas de Reboot. Tout ce que j'ai comme résidu dans mes souvenirs, c'est des flashbacks et des cauchemars. Avec aucune trame narrative que whatsoever. Là. Il se passe absolument rien. Moi, j'avais juste des images, puis je savais que ça m'avait vraiment beaucoup
marqué
et ça m'avait beaucoup affecté émotionnellement. Fait que André Philippe, qu'on entend rire en ce moment, quand tu avais proposé de faire une émission sur Reboot, ça m'a comme justement ça l'a fait revenir tous ces traumas là. Puis j'ai fait bon, ok, je vais essayer de.
Je suis désolé.
D'y retourner, d'ouvrir la plaie à nouveau pour voir que dans le fond c'est pas si pire. Mais en même temps, comme on va déployer le sujet, oui. Mais.
Mais c'est intéressant en fait parce que c'est ça, tu dors mal depuis à peu près une semaine. Ça fait que c'est peut-être là qu'on va pouvoir crever l'abcès par rapport à ça. Mais je pensais en introduction par rapport à l'émission, le fait que étant considérablement plus vieux que vous dans la salle, quand Reboot jouait, c'était était diffusé en fait, parce que bon, jouait à un double sens aussi avec la télésérie.
Oh.
Ben oui.
Ça commence.
Yeah. Yeah.
Absolument.
Il va falloir peut-être, si c'est le cas pour vous, parce que vous êtes tous très précoces, des gens très intelligents et allumés, pour nous autres, c'était comme une télésérie qui nous servait à comprendre le fonctionnement des machines. Mm-hmm. Parce qu'on venait juste, tu sais, ben, j'avais 13-14 ans, donc c'était le début de « OK, c'est ça un DOS. OK, c'est ça un disque dur. » OK, fait que la télésérie me servait à comprendre une machine qui commençait à tranquillement faire sa place. Mm-hmm. Je commençais à délaisser les recherches bibliothèques sur le tamis rayé, puis j'allais les faire sur Internet. J'en ai fait des recherches sur le tamis rayé.
Ah oui.
Et Reboot était à la fois une espèce de façon... tu sais, c'était comme l'arrivée des graphiques 3D, cette idée-là très cool de hey, « on va parler de technologie, on va tout être sur des surfboards qui flottent, puis on va avoir des cheveux rouges et tout », qui m'interpellait dans une idée. Ben oui, exactement.
Élisabeth a déjà commencé à avoir des beaux cheveux.
Ah, oh, merci.
Ça m'interpellait dans tout ce qui s'en venait, comme avec Hackers et ces films-là d'informatique. quand je tirais vers mon adolescence à découvrir la sexualité puis des drogues hallucinogènes et ainsi de suite. Mais
tout converge.
Mais c'est ça, mais en même temps, c'était une parfaite métaphore pédagogique.
Oh my God, reboot sur le moche. Oh, ça mais, doit être weird. Ouais,
en même temps, c'était pas entièrement pédagogique, je veux dire, c'est quand même un univers très imaginatif. Je veux dire, les pixels bouffent le vaisseau à un moment donné. Donc, c'était ça de comprendre c'est quoi un pixel seulement avec Reboot ou même la plupart des choses. C'est quand même, ils se sont quand même beaucoup amusés avec ces termes-là pour les rendre aussi plus ludiques narrativement.
Oui, mais c'était comme c'était un beau tremplin de départ parce que ces termes-là rentraient immédiatement dans l'usage commun.
Oh, tout à fait.
C'est ça. Excuse-moi. Et donc, je pense que pour la prochaine heure qui va venir, parce que je vous cède la parole, véritablement, je cède la parole à Elisabeth, qui est l'animatrice et l'instigatrice des Amazones ici sur choc.ca.
Oui, oui, c'est moi.
Il y a aussi Eric qui a animé pendant 2 ans.
Non, ça a été environ 4 émissions.
Aïe, aïe, ok.
Ouais, hein, c'était un travail incommensurable d'environ 40 heures par épisode, faire le montage des discours de politiciens sur de la musique de Gorillaz. Donc, c'était quelque chose d'assez. En ligne, encore dans les archives, il reste 2 épisodes. Si jamais il y en a qui veulent le 3e, bien, imaginez-le. Il était super bon. C'est pour vous.
Envoyez-nous un message.
Oui, exactement. Envoyez-nous un message. Je vais vous envoyer une super copie. Sinon, juste à penser que ça s'est perdu dans le cyberespace à quelque endroit. Ça a été nullifié. Il y a des petits gnolls qui se promènent.
Il y a une pixel qui l'a bouffé. Tu vois, André Philippe?
Exactement.
C'est quoi, voilà. C'est quoi le nom de l'émission?
C'était What de Foucault.
Wow.
Ouais. C'était quand même assez intéressant, une déconstruction.
C'est très dense. C'est exactement ce que j'allais dire. Je l'ai écouté en travaillant, puis mon Dieu, c'était pas une bonne idée.
Non, ça s'écoute pas d'une oreille. Il faut vraiment porter son attention et son intention sur tout ce qui est évoqué.
Et André Philippe qui est venu participer à notre émission sur Metal Gear, qui est venu participer à l'émission sur
Agatha Christie.
Star Trek aussi.
Star Trek effectivement qui s'en vient là, que faut que je monte. Merci. Et Megan, merci beaucoup de porter le manteau de Princesse Leia au début de Retour du Jedi.
Ça fait plaisir.
C'est toujours très apprécié.
J'ai sorti mon imperméable, je savais qu'il annonçait de la pluie.
Ah, very nice. OK, je pensais que tu allais détruire une base qui alimente un bouclier dans l'espace.
Accessoirement.
Ouais, ça c'est. ou comme on appelle, un mercredi soir chez toi. Donc, tel que promis, je vous laisse la table. Je laisse la table à Megan pour l'animation parce qu'on parle de cette télé. Genre, l'as-tu nommé?
Oui.
OK, c'est ça, parce que des fois, tu sais, le sujet amené, il part.
Pour les grands francophones, c'est Megabug.
Mm-hmm. Ah, c'est ça.
Oui, en fait, c'est Megabug.
Canal Famille, c'est comme ça que ça
Canal
s'appelait.
Canal Famille, tout le monde. Moi, ça a été.
Non, vous n'avez pas Canal Famille.
Oui, tout à fait. Mais j'aimerais rebondir sur les commentaires de Jean-Michel sur le fait que lui écoutait la série autour de 13-14 ans, alors que, justement, la série étant sortie autour de 94, ayant joué durant la deuxième moitié des années 90, personnellement, j'avais dit que je l'écoutais et que ça a aussi rejoué en reprise, faut dire, mais je l'écoutais, j'avais 5 ou 6 ans. Donc, parce que c'était un rapport à la télévision qu'on avait, qu'on ouvrait Canal Famille et on écoutait tout ce qui jouait à Canal Famille ou à, mettons, Les Bonhommes à Radio-Canada le matin, la fin de semaine. Mais tu sais, il y avait une relation, je pense, avec la télévision qui faisait qu'on écoutait tout. Donc, une émission hyper geek était écoutée par tout le monde, ou du moins, il y en avait qui, justement, parce que ça faisait peur, parce que c'était, je veux dire, les dents d'hexadécimales, la méchanceté de Megabyte, les gros cubes mauves qui descendaient du ciel. Il y avait une relation quand même avec cette série-là. Il y avait des gens, ça faisait peur. Puis moi aussi, ça me faisait peur, mais ça m'intriguait. Donc, même si j'ai pas tout compris, puis que les réécouter à l'âge adulte, on se dit comme, oh mon Dieu, toutes les références, tout ce que j'arrive à saisir comme référence à l'informatique, qui n'était pas accessible pour des enfants de 4-5 ans, mais qui était aussi, comme le disait Jean-Michel, peut-être avoir été un peu plus vieille à l'écouter aurait été un bon tremplin pour comprendre ce qu'était l'informatique.
En même temps, personnellement, moi, quand j'avais 5 ans, on avait un ordinateur à la maison, puis c'était des outils qu'on utilisait déjà de façon très intuitive, même à notre très jeune âge, parce qu'on est des born digital, là, donc c'est on fait. Est né avec ça. On écoutait Reboot, puis en même temps, on comprenait intuitivement ce qui se passait, sans avoir à comprendre la logique derrière tous ces termes-là, donc derrière tous les binômes et toutes les références très... pratique qu'il y avait dedans. Nous autres, on était comme, c'est des bonhommes, ils sont le fun, puis ils peuvent se transformer pour devenir à peu près ce qu'on veut, mais tu sais, c'est des binômes, c'est des 1 puis des 0. Donc, il y a ça aussi de rapport c'est ça, intuitif.
Ouais. Ben, surtout que le schéma est assez simple. Quand j'ai pensé à comment on pourrait planifier l'émission, qu'est-ce qu'on pourrait aborder, la première chose qui m'est venue en tête, c'est les cubes de jeu, les GameCube, parce que c'est un peu ça qu'on retient. Au début, on sait pas trop ce qui se passe, les trames sont assez indépendantes, on a des personnages récurrents, mais c'est surtout, il va y avoir un jeu, la plupart du temps, et il va falloir que les personnages gangs battent l'utilisateur, qui est en fait, nous, normalement, dans la vraie vie, quand on joue à un jeu vidéo. Donc, on est le méchant de cette série-là, ce qui est quand même...
Ben, pour revenir un peu, on peut expliquer le principe de l'émission pour les gens qui l'ont pas écouté. Là,
Bien sûr.
C'est sur... à part pour se rendre au jeu, c'est dans la ville de Mindframe, c'est ça?
Exactement.
Ben, comme je vais vous laisser l'expliquer, parce que vous l'avez vraiment plus frais à la mémoire que moi, là.
Ouais, ben, je me suis vautré de cette série dans les 4 derniers jours. Donc, dans la ville de Mindframe vit ce qui s'appelle des sprites, donc des espèces de programmes à forme humanoïde. C'est eux qui ont la tâche soit de faire rouler Mindframe ou même de la défendre contre de ce qu'on appelle justement les GameCube, des gros cubes mauves qui descendent sur la ville. Si jamais les sprites ne réussissent pas à gagner dans le jeu, ils se font nullifier, ce qui est à dire qu'ils deviennent des larves littéralement. Donc ils deviennent des protecteurs de Mindframe. C'est dans le fond, dès le début de la série, à chaque début d'épisode ou presque, il y a un espèce de discours du personnage de Bob, le gardien de Mindframe, qui justement, il y a des users qui vivent à l'extérieur dans le net et qui mettent des jeux pour leur plaisir, et mon but c'est de défendre et de réparer, mend and defend. Fait que ça c'est vraiment la base de la série. Puis dans Mindframe, il y a deux virus, Megabug et Hexadecimal, dont on apprend plus tard qu'ils sont frères et sœurs, et même le frère et la sœur de Enzo et de Dot Matrix, parce qu'ils ont été créés par le père de Enzo et de Dot, ça on l'apprend plus tard dans la série. Fait qu'au début, vraiment dans la première saison, c'est les aventures dans la ville de Mainframe, des baddies qui sont Megabug et Hexadecimal, qui affrontent à travers la ville et les jeux Dot, sa famille, et il y a aussi le chien Frisket, qui est quand même assez intéressant comme personnage.
Et ce qui est quand même bien, c'est que le générique présente exactement cet univers-là. C'est quand même très, très complet quand on lit, quand on regarde les images. Tout à peu près l'univers est présenté avec ce générique-là. Donc, comme tu disais, la fonction du gardien qui doit essayer de défendre tout ça, c'est vraiment très bien amené pour ça. Et ça.
Mais la série n'est pas dans le fond, il y a beaucoup de plot holes. Il y a du moins des choses qui lorsqu'on essaie de l'expliquer, devient un peu comme le premier épisode où est-ce qu'on découvre le premier GameCube et que Bob a pas le temps d'aller dans le GameCube et donc les sprites qui étaient là perdent et donc game over, user win. Et une partie de la ville de Mainframe où, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est quand le cube descend sur une partie de la ville, cette partie-là de la ville, si le user gang, va être détruite. Ce qui est particulier quand même, parce que un user va utiliser un ordinateur, va en prendre soin parce qu'il veut, il va même le updater, parce qu'il veut être sûr de pouvoir jouer le plus possible. Alors que là, dans cet univers-là, c'est comme si le user qui gagne détruisait un peu son ordinateur, ce qui a pas exactement du sens, mais qui est quand même dans la façon dont physiquement ça fonctionne dans Reboot, ce que je trouve quand même particulier là, comme vision de la représentation du joueur qui joue et qui détruit son ordinateur. Ça m'avait quand même marqué quand je l'ai réécouté la série justement.
Ben, ce problème-là, je pense qu'il est adressé dans la troisième saison lorsqu'il y a un redémarrage de l'ordinateur et tous les environnements qui ont été nullifiés par des jeux sont remis à neuf.
Mm-hmm.
Donc, si on calcule qu'à chaque fois qu'on redémarre un ordi, tu sais, moi, je redémarre mon ordi, quoi, une fois par jour, ben, tous ces environnements-là qui auraient été détruits par mes parties StarCraft gagnées se reconstruiraient après. Parce que, petite anecdote, 5 ans, écoute Megabug, vois le premier épisode... Les gens perdent, c'est détruit. Je m'en vais jouer chez nous, je joue à Age of Empire, puis j'ai fait exprès de perdre parce que ça me tentait pas de créer un génocide dans mon ordinateur. Donc, tu sais, il y a cette espèce d'aspect-là, soit une espèce de pédagogie à l'intérieur du jeu qui montre que ces êtres-là qui vivent dans les jeux auraient une certaine, genre, intention, auraient un âme quasiment. Ça devient quasiment une espèce de cosmogonie à l'intérieur même des ordinateurs que quand l'ordinateur ne fait rien. Admettons, j'ai un screensaver en ce moment sur mon ordinateur, ben, il y aurait une gang de binômes en ce moment dans des bulles en train de faire « Oh, on s'occupe du screensaver! » Puis ensuite, ben, quand je l'arrête, il arrête. Puis si je redémarre l'ordi à la fin, ben, ils reviendront de toute façon.
Mais on peut parler aussi de la notion du temps dans Reboot, ou est-ce que, dans le fond, ce que tu viens de dire a plein de sens? Si on se dit que, mettons qu'on se dit que Reboot, la série au complet, en sachant pertinemment que le temps passe pas pareil pour les sprites, qu'ils font beaucoup de blagues avec ça en disant justement comme, oh my god, c'est tellement long, ça m'a pris au moins genre 5 nanosecondes faire ça, puis je pourrais pas croire que ça me prendrait, je sais pas moi, une seconde pour faire ça, ça a aucun sens. C'est intéressant parce que effectivement, on pourrait se dire que plus tu runs de choses sur ton ordinateur, plus ton ordinateur devient lent, donc il y a besoin d'être rebooté. Donc potentiellement que la série complète de Reboot serait une journée où un joueur ou une joueuse, du moins l'utilisateur ou l'utilisatrice a décidé que ben aujourd'hui c'est un samedi, j'ai rien à faire et je vais jouer à peu près 30 jeux.
Je sors tous mes jeux d'arcade qui roulent sur Windows MS là.
Exactement, puis que dans le fond c'est juste parce que c'est ça, c'est avec une 47 épisodes je pense en tout, 47-48 épisodes, puis il y a pas des jeux dans tous les épisodes, surtout dans les premières saisons qu'il y a des jeux. Donc ça pourrait être ça là, genre j'ai passé la journée à gamer, j'ai fait une vingtaine, une trentaine de jeux, tu sais. Ça aurait du sens justement qu'à la fin, ben comme tout le monde est rendu super épuisé, puis on fait un reboot, puis dans le fond on renaît à la fin de la saison 3.
Oui,
exactement. C'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me perturbe énormément étant donné la souffrance qu'il peut y avoir dans cette série-là, surtout en troisième saison où tout va mal. On sent vraiment à quel point les personnages en arrachent. On n'arrête pas de penser qu'on va arriver à une situation meilleure et c'est toujours pire. Et finalement, tu dis que tout ça aurait duré genre moins d'une journée.
Oui.
C'est assez dérangeant quand même pour que je repense à cette série-là. Surtout qu'il y a beaucoup d'épisodes comme ça passé avec la famille que j'avais pas vu. C'est mes amis qui m'y racontaient et j'essayais d'imaginer ce qui se passait dans ces épisodes-là. Des épisodes très importants qu'on va pouvoir aborder. Aussi, il faut dire qu'à l'époque, les ordinateurs étaient beaucoup plus instable qu'aujourd'hui. Il plantait très souvent.
Ouais.
Donc ça pourrait expliquer le fait qu'on gagnait des jeux, donc on affectait notre ordinateur puis on l'obligeait à rebooter.
Surtout si tes jeux que tu jouais sur ton ordinateur étaient téléchargés sur des peut-être des sites un peu... T'sais, je sais pas, à la mini-clip, là, pis que dans le fond, ça amenait tout le temps des virus ou ça amenait tout le temps des trucs malveillants au fur et à mesure que tu t'essayais juste de jouer. Pis...
Même quand je jouais avec des jeux entièrement légitimes, ça m'est arrivé très souvent d'avoir mon écran bleu. Même en fait, quand je faisais rien sur mon ordinateur, ça arrivait que l'écran devenait bleu. Dans R499, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'était une autre époque où c'était vraiment beaucoup moins stable avant Windows XP, je parle. Là. C'est à peu près l'époque où la série jouait, c'était.
Déjà, c'était pas Windows XP à cette époque.
Non, c'est ça, c'est bien avant. Ou c'est devenu plus stable.
Oui.
La série aurait été plate sur un Mac. Je dis juste ça.
Mais c'est ça. Mais c'est exactement dans la direction dans laquelle j'allais.
Linux,
parce que encore
Mac, il n'y aurait juste pas eu de virus, puis ça aurait été « tout est beau dans la ville de Mainframe ».
Ça n'aurait pas été intéressant.
Non, oui, pas en tout.
Au-delà de la série aussi, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'effectivement, ces troubles techniques-là survenaient énormément à l'époque, tu sais, comme à l'émergence de l'ordinateur personnel. Mais... Encore, je m'éloigne, là, étant plus près de la quarantaine que vous autres. cette idée-là qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se plantait dans ton ordinateur, t'étais capable de te faire un mini-scénario de reboot.
Ouais.
Dire, c'est drôle, c'est probablement qu'il y a comme un des pixels qui a crissé hexadécimal en bas de son petit disque qui flotte, puis là, tout d'un coup, il y a comme deux trucs qui connectent pas, puis ton ordinateur... Fait que c'est là encore, je fais encore beaucoup de millage sur cette métaphore-là, que je disais que la télésérie nous permet de comprendre, ou du moins de mettre... un nom sur les fonctionnalités, les usages et qu'est-ce qui doit correctement se dérouler pour qu'un ordinateur soit capable d'acheminer ta commande, chose qu'on vit plus maintenant.
Puis justement, c'est peut-être un des peut-être seuls points forts de la nouvelle série qui essaie de justement réhabiliter cette espèce de non-connaissance de la technologie, mais mauvaise
ouais,
en guillemets représentation de la technologie. Megabyte dans la nouvelle série affronte un nouveau user qui devient un gardien puis lui dit oh I am Megabyte, puis là le jeune lui répond oh my cell phone is like 2000 times stronger than you. Mais tu sais, c'est au moins en riant de cette espèce de non-respect de ce qui est vraiment un système informatique, au moins ils réussissent à se déculpabiliser de ça aussi. Mais en même temps, la nouvelle série représente trop ce qu'est l'informatique maintenant. Tu sais, admettons, il attaque dans le premier épisode, le Sorcerer, qui est le méchant, attaque la power grid des UK. Ben dans le système informatique, ça ressemble à un vrai power grid aussi. Fait comment un code informatique qui réglerait une énergie de centrale nucléaire ressemblerait aussi à une centrale nucléaire. Donc là, ils ont une volonté de quasiment plaquer le réel sur le numérique, puis dire « Ah, ben ça se peut parce que c'est une ligne de code, fait que ça peut ressembler à ce qu'on veut. »
Ouais, de plaquer le matériel de plaquer sur le virtuel.
C'est,
ouais.
C'est la map qui définit le territoire, qui est territoire et non exactement. L'inverse.
Puis comme à l'époque, dans les années 90, on
j'ai
faisait...
J'ai vu Baudrillard partout en fin de semaine, c'est
non,
c'est
mais comme, tu sais, c'est ça, je parlais tantôt du téléfilm, là, parce que ça facture un téléfilm, mais le film Hackers avec Johnny Lee Miller, puis Angelina Jolie,
ouais.
Et Fisher Stevens,
ouais.
Ben, eux autres, dès qu'ils arrivaient à un ordinateur, ben là, tout d'un coup, la visualisation de ce que c'était un système informatique, c'était plutôt l'inverse.
Ouais.
C'était des corridors fluo que lui, il se promenait en skate là-dedans, puis on mm-hmm. était tous, nous étions tous des êtres de lumière à naviguer, à
ouais.
aller chercher un tiroir, puis là, c'était comme le tiroir, c'est la FBI au complet, puis t'es comme, what the fuck is this?
Ouais, ouais.
Fait qu'il y a, je trouve ça intéressant, n'ayant pas écouté la plus récente série, là, c'est l'inversement.
Ben, c'est parce qu'à la base, même, l'ordinateur, c'est Bolter puis Grossin qui disent que l'ordinateur, à la base, est une rémédiation de toutes les techniques. Donc, le dossier, c'est une technique d'archivage qui est ouais. physique, fait qu'on le représente comme un dossier dans un ordinateur. Le Word, c'est une page blanche comme la machine à écrire. Ce qui fait que l'ordinateur, à la base, n'était pas un programme, mais une reprise de techniques déjà utilisées dans des fenêtres. Ouais. Puis les fenêtres aussi, on en reparlera plus tard, les fenêtres sont super importantes dans
oui,
le book.
Oui, tout à fait.
Mais où j'en venais, bon. C'est que on passe d'un ordinateur qui représente des éléments de technique réels, puis ensuite, avec la technique des ordinateurs, on essaye de représenter l'ordinateur à l'intérieur d'une fiction. Donc là, l'aller-retour, c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont être perdus au change, parce qu'il y a une certaine liberté artistique, il y a une certaine interprétation de ce qu'est un ordinateur, puis ce qui est représenté à l'intérieur, puis sincèrement, c'est ça qui faisait que la série était beaucoup plus intéressante que de copier directement, ok, c'est une page Word, on va ouvrir, il y a une grosse page ici. T'sais, l'épisode de Paint est super important dans cette série.
Oui, oh, oui, tout à fait. Puis, mais je pense que, tu sais, un peu à la, tu sais, je peux faire un genre de parallèle, tu sais, un peu comme à la Inside Out, où est-ce qu'on essaie de faire une personnification, une anthropomorphisation de quelque chose qui est comme, là, encore une fois, c'est intangible, des émotions, ou mettons, l'information qui circule dans un ordinateur.
Ouais.
Il y a quelque chose de, c'est pas tant, c'est clair qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, tu sais, puis c'est juste une façon de représenter comment on imagine que ça pourrait se passer. Donc ça, effectivement, je trouve que ça a l'air plus intéressant. Moi, j'ai pas encore écouté Reboot de Guardian Code, mais c'est ça, ça avait pas l'air très intéressant de par le fait que je me suis dit, ben, ce qui était intéressant, c'était cette espèce de représentation-là de ce que ça pouvait être, plus que de mettre des vraies personnes de faire du VR, tu sais.
Ouais, mais ça, c'est Tron, là.
Exactement, mais c'est là où Reboot est quand même très spécifique. C'était, on avait vraiment juste accès à ça. Quand je pense à quelque chose qui ressemble à Reboot, ce qui vient peut-être le plus à l'esprit, c'est Toy Story.
Ouais. Mmh.
Justement, parce qu'on est dans, qu'est-ce qui se passe dans notre chambre quand on n'est pas là? Là, c'est la même chose, qu'est-ce qui se passe dans notre ordi quand on n'est pas là, quand on n'est pas en train de jouer à un jeu? Il y a plein de choses qui se passent et qui fonctionnent. C'est dommage de la nouvelle série, c'est justement, ça ressemble énormément à Tron et c'est beaucoup trop appuyé généralement, alors que des fois il y a des bonnes idées. Par exemple, le quatrième épisode commence avec l'idée d'un chat viral, et effectivement présentement quand on regarde comment les chats sont partagés, c'est une très bonne idée pour faire un virus, c'est sûr que ça va se répandre partout très très rapidement, mais bon, ça donne pas quelque chose de très...
ça s'essouffle
ben très rapidement. C'est ça, la seule peut-être bonne chose qui se passe avec le chat dans l'épisode, c'est quand un des personnages fait une réplique qui va vraiment lui montrer off, mais parce que c'est un sort de programme qui a aucune réaction, parce que c'est pas trop quoi faire avec le chat, donc elle imagine de peut-être le manger, et ça fait quand même c'est surprenant. Donc au moins c'est quelque chose que la série arrive à faire, et c'était à mon sens la force de Reboot. On savait pas ce qui pouvait arriver avec les différentes choses qui existait, oui.
Non, mais c'est parce que aujourd'hui, je réécoutais un épisode de la saison 2, l'épisode où Andrea arrive.
Oui.
Puis ça me fait tellement rire parce que il y avait là justement Andrea qui sort du jeu.
Ah,
puis elle essaie d'expliquer, tu sais, elle dit genre, j'ai pris mon backup, je l'ai mis sur ton icon, ça m'a permis de sortir du jeu, puis nanana. Puis là t'as Enzo qui dit comme, tu pouvais faire ça. Puis elle a dit, ben apparemment, tu sais. Puis je trouve qu'il y avait un si je pouvais faire un parallèle avec une autre fiction qui est dans une galaxie de chez vous, ça me fait penser à quand Valence dans le premier film dit, ce qui est le fun avec la science-fiction, c'est qu'on peut dire n'importe quoi, tu sais.
Oui.
Puis là, c'est pas de la science-fiction Reboot, mais il y a une notion genre de que comme ça riait un peu d'eux-mêmes quand justement t'as Andrea qui fait comme ben regarde, c'est ça qui arrive là, qu'est-ce que tu veux là, on va, narrative genre pour des biens narratifs on va le faire.
Ben, c'est qu'il y avait rien qui disait qu'on pouvait pas le faire, et c'est un peu cette règle-là dans Reboot, tout ce qui a pas été comme fait comme règle peut advenir.
Ça fait un peu comme un code informatique, là. C'est pas, il peut y avoir des trous un peu dans lesquels on peut s'amuser, mais ça va, tout ce qui est pas programmé est libre.
Mais il peut aussi avoir des updates. On l'a vu avec l'informatique, on est de cette génération-là qui l'a connu. Il y a eu énormément de changements dans la manière dont se représente l'informatique. Donc, il y a pas comme nécessairement de règles fixes. On sait pas où on va être rendu dans 20 ans, mais on imagine que ça va être très, très différent. Juste de dire, de parler des Messenger puis des trucs comme ça qui remontent pas si longtemps que ça, c'est complètement désuet aujourd'hui.
Puis, ce que je trouve intéressant aussi dans Reboot, là, comme là, on parle beaucoup de, justement, la représentation de l'informatique, mais on peut aussi parler de la représentation du genre en général, tu sais, des films de genre puis tout ça. Je pense entre autres à des épisodes comme Bad Bob qui est dans le fond juste un rip-off de Mad Max, tu sais. Et où est-ce que justement on va aller jouer avec comme des représentations de trucs qui sont super geeks déjà à l'époque, puis c'est comme ben on va juste reprendre tout ça. L'épisode où est-ce qu'il joue, il dit "Oh, I know this game, it's Dungeon D." Puis là, c'est juste comme pour faire des références à Donjons et Dragons.
Il y a aussi des références visuelles par exemple dans l'épisode avec Godzilla, mais là il y a comme une espèce de filtre par-dessus l'image qui fait très film de Godzilla des années 60, puis là il y a les bonhommes qui les binômes qui se mettent à crier, puis
non, puis même il y a la boule de l'appartement de Bob qui tombe, puis je pense que c'est repris, cette trope là est repris genre 4 à 5 fois, un énorme objet qui roule puis quelqu'un qui s'enfuit comme Indiana Jones, puis il y a même un binôme Indiana Jones qui s'enfuit d'une grosse boule un peu plus tôt.
Il y a des références plus explicites avec X-Files, puis Kevin Anderson qui faisait la voix d'un des
binômes.
Juste avant l'épisode avec Nidilla, il y a aussi les Power Rangers. C'est comme ça qu'ils combattent l'immense monstre, c'est en se transformant.
C'est dans cette épisode.
C'est dans Nidilla.
Ouais, c'est dans Nidilla.
On le sait parce qu'on vient de l'écouter genre, il y a une heure. Mais je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait un mot à dire aussi sur parce qu'on a parlé, je viens juste de parler de Donjons et Dragons. Il y avait une réflexion qui avait été faite par rapport à au développement de l'arc narratif des personnages par rapport à des alignements de Donjons et Dragons qui avaient été nommés.
Ouais, c'est juste ici.
Allô.
Ouais, bonjour. Ouais, dans le fond, c'était ma réflexion parce qu'on parlait de l'importance de l'intertextualité des ici plus des jeux en premier parce que je me suis concentré surtout sur le jeu vidéo. Justement dans cet épisode 9 là de la première saison qui est A Witch Wizard and a Word from Our Sponsors, Wizards Warrior and a Word from Our Sponsor, dans lequel Mike, la télé, Bob, Dot et Enzo se ramassent dans un jeu justement, A Dungeon Deep, qui est un rip-off de Donjons Dragons, dans lequel les personnages doivent coopérer afin de réussir. Dans le fond, les personnages se sont rendus dans le jeu parce qu'ils s'enfuyaient de Mike, qui arrêtait pas de cracher des infos pub, et les personnages avaient perdu la remote. Donc les personnages veulent s'enfuir de Mike, veulent pas travailler avec lui, ce qui ne leur permet pas d'avancer dans le jeu à Dungeon Deep, puisque une des fonctions du jeu, c'est une certaine fonction pédagogique et heuristique qui te permet à travers les rôles que tu incarnes de te développer toi en tant que personne, parce qu'on a vu tous les acteurs, admettons de Guardian of Galaxy, l'ont dit dans des entrevues, ils jouent des parties de Donjons Dragons ensemble pour essayer de mieux incarner leur personnage. Dans Reboot, dans cet épisode-là, le jeu a vraiment une fonction propédeutique et même pédagogique. Ça devient quasiment un jeu de formation, là, un bildungsjeu. Fait que, ce qui est à dire que...
Ce qui est intéressant parce que le user joue les quatre personnages.
Non, le user joue...
Contre
eux.
Oui, mais il incarne en quatre personnages. Un peu comme si on jouait, mettons, à Dragon Age, où est-ce qu'on peut contrôler quatre personnages puis choisir leur action.
Mais non, mais à Dungeon Deep, c'est qu'ils sont contre le joueur, mais ils sont aussi des personnages comme le joueur. Fait que c'est comme si des NPC dans Baldur's Gate essayaient de gagner le jeu.
C'est juste un détail, mais c'est vraiment, en tout cas, c'est pas important, là. C'est juste que le user contrôlait quatre personnages, en plus que les autres qui contrôlaient, qui étaient chacun individuellement. Alors que le user avait une seule pensée à contrôler, qui était la sienne puis sa stratégie, alors que eux devaient justement jouer sur comme les ben on va se confronter dans nos idées puis comme des fois justement
c'est parce que la théorie du local network dans Mainframe, parce que Mainframe avait une ville jumelle, ce qui suppose qu'il y avait plusieurs ordi connectés dans la même pièce ou dans la même maison, ce qui fait que dans A Dungeon Deep ça aurait pu être plusieurs joueurs qui contrôlaient plusieurs personnages.
C'était un jeu coopératif.
Ben, c'est dans cet univers-là, au début, Mainframe est vraiment séparé du net, puis c'est le père de Enzo puis Dot qui veut trouver et rejoindre d'autres univers à l'intérieur du cyberespace, puis c'est comme ça qu'ils font rentrer Megabyte puis Hexadécimal, puis qu'ils détruisent tout. Fait qu'on peut croire qu'il pourrait avoir plusieurs joueurs dans les games, plusieurs
users.
Fait
quand il dit « the user », ça pourrait représenter plus qu'une personne.
C'est « the user » puis « the users » souvent qu'ils utilisent. Il y a les deux. Ouais, parce qu'à la fin de la saison 3 dans Showdown, toutes les backups des... tu sais, admettons, les mémoires fantômes quand tu joues, admettons, à Need for Speed ou à d'autres jeux, où est-ce que t'as une image fantomatique de ta régression, il y a la même chose dans cet épisode-là. Toutes les anciennes versions des joueurs qui ont joué au jeu se retrouvent en même temps dans l'ordinateur. Fait qu'il y a plusieurs joueurs sûrement qui peuvent jouer en même temps. C'est ça qui ça devient, devient bizarre. Là, parce qu'ils sont jamais là.
Ce jeu-là ressemble beaucoup à Gauntlet, qui est un des premiers jeux multi-act qui reprend un peu le Donjon Dragon style.
Ouais.
Donc, c'est, pour moi, c'est toujours pensé que, parce qu'effectivement, sinon, surtout que ça se passe tout en temps réel, tous les bonhommes bougent en même temps, il me semble que c'est complètement impossible.
Ouais, mais ce serait pas une des seules impossibilités.
Non, c'est pas une des seules impossibilités, mais.
Mais c'est intéressant, de toute façon, ça revient à questionner la perception des sprites qui est comme, ben, ça s'appelle des users, un peu comme une espèce pas de dieu, mais de force plus grande que eux, mais que cette personne, que cette tête-là ait soit bicéphale ou avec quatre têtes, puis que ce soit quatre personnes, pour eux, ça fera aucune différence de toute façon, parce que c'est l'impact que ce nombre de personnes-là ont, c'est juste les conséquences d'avoir perdu le jeu qui compte, là, tu sais.
Ouais. En fait, de toute façon, il est intangible. Ils verront jamais. Le seul moment où on a, il me semble, une vraie interaction, c'est quand il fait yes pour redémarrer l'ordinateur.
Ouais.
Sinon, on le voit juste par ses avatars dans les jeux, mais on a jamais comme une représentation, une image
physique.
Aujourd'hui, on pourrait plus l'avoir avec, mettons, les jeux comme les Sims ou des jeux comme ça où on se fait vraiment parfois nous-mêmes. Donc, on pourrait le voir, mais là, c'était vraiment à l'époque des sprites où on incarnait Mario ou Zelda. Donc, par la force des choses, on ne pouvait avoir aucune idée de à quoi il ressemblait.
Mm-hmm. Mais l'idée du jeu de rôle est intéressante parce que, comme tu le disais un peu avant d'entrer en onde, chaque jeu est une occasion dans la trame narrative de Reboot pour les personnages de se développer et de se raffiner aussi, là. Donc, c'est un peu à travers ces jeux-là qui sont très ponctuels. Au début, dans la première saison, c'est assez accessoire, fait que ça fait des épisodes qui sont pas mal fermés sur eux-mêmes. Puis après, à partir de la deuxième saison, si je me trompe pas, ça devient ça vraiment commence. Plus ouais. feuilletonesque.
C'est
à partir de Nudzilla, puis Andrea, qui comme un personnage qui apparaît, qu'on sait pas d'où elle vient sinon.
Ouais, c'est ça, mais ouais, c'est ça. Chaque jeu est une occasion de justement rentrer plus dans la psyché et ça transforme la série animée en quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Là. Je pense que c'est à partir de là j'ai commencé à faire des cauchemars. J'attachais émotionnellement.
De toute façon, très tôt, il y a quand même des liens entre ce qui se passe à l'extérieur du jeu, dans Mainframe, et ce qui va se passer dans le jeu. Par exemple, une année, Bob et Dot sont en chicane et ça a une répercussion directe sur le jeu où ils doivent. C'est un jeu de coopération. Ils doivent vraiment travailler ensemble pour réussir.
Escape from Alcatraz.
Exactement. Merci.
C'est drôle parce que c'est dans cet épisode-là que j'ai remarqué l'épisode avec Escape de Alcatraz. C'est dans cet épisode-là que j'ai remarqué l'importance du vocabulaire aussi qu'il va utiliser. On en parlait un peu tantôt, mais hors d'onde, mais une des raisons de la chicane, mais ou du moins une de ce qui a envenimé la chicane, c'est que Dot et Bob se traitaient mutuellement de basic, qui est comme l'équivalent de dire genre t'es poche, t'es
un niveau inférieur aussi, c'est ça que ça veut dire dans l'informatique.
Exactement, tu sais, genre oh my god, you're so, puis là par la suite, ils utilisent beaucoup ça, tu sais, Enzo va souvent dire comme oh my god, I'm so basic, je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça. L'utilisation aussi du mot random qui semble vouloir dire ça semble être positif quand même là, comme quand Enzo l'utilise.
Mais des fois c'est que c'est aléatoire, donc ça peut vouloir dire aussi très négatif.
Mais ouais, parce que des fois il dit comme oh my god, that's a random, tu sais, c'est cool, tu sais, ou des fois c'est comme ah, that's random. Puis aussi alpha numerical qui veut dire genre c'est extraordinaire, c'est tellement cool,
c'est t'sais. Le cool de Abed,
voilà.
Ou le everything is awesome.
Ouais, de Lego.
Ouais. Alpha numeric.
Fait que lequel est arrivé en premier?
Non, c'est ça. Mais tu me faisais penser avec le vocabulaire aussi dans cet épisode-là, c'est quand même très drôle, celui où Bob et Dot sont en chicane, parce qu'une année Bob est pris dans une bulle et il veut en sortir et il essaie toutes sortes de trucs genre tronçonneuse, scie, marteau, ça fonctionne absolument pas. Une année il réalise ok, oui, il faut juste que je prenne une aiguille, c'est la seule manière de briser une bulle. Donc cette idée-là aussi de concept qui est quand même très travaillé.
Qui revient à certains jeux des fois qu'on joue puis on est comme ben ça c'est sûr que ça devrait fonctionner, ça fonctionne pas, comment ça, parce que c'est pas l'affaire qu'il fallait que t'ailles chercher dans un genre de mettons
Zork. Je sais pas si vous avez joué à Zork là, Mais si t'écris pas exactement la commande qu'il faut, ça veut juste dire « You cannot do that
». C'est aussi comment les jeux sont programmés. Quand tu joues au premier sim puis il y a un incendie dans ta maison, les personnages ont clairement des manières de passer à côté de la table qui est bloquée. Ils peuvent sauter par-dessus, passer en dessous, mais c'est pas, ils sont pas programmés pour le faire. Donc ils font
la fameuse échelle de la piscine.
Aussi. On est tous déjà sortis sa échelle d'une piscine. Mais pour eux, c'est impossible, puis ils meurent.
Ce n'était pas dans leur programmation.
Exactement.
Puis c'est drôle parce que pendant que vous êtes en train de parler de ça, je revois tout le... Ça devient comme un climat. Toute cette ère d'initiation à la technologie. Les Tamagotchi dans leur caca.
Ouais.
Toute cette idée-là de comme, c'est ça, les premiers sims où on construisait une maison, puis là, on enlevait la porte.
Et si on tue nos sims, il faut quand même dire, parce que tout le monde le fait de notre génération.
Non,
c'est quand même.
Non.
T'es une bonne personne.
Non, je suis vraiment très loyal good dans la vie, je pense.
C'est chouette.
T'enlèves la toilette, puis là, t'es regardant, c'est. Exactement. Mais il y avait cette dimension-là, puis là, encore, je veux vraiment te souvenir. Elisabeth, il faut que t'enlèves la toilette. Au moins une fois dans ta vie, c'est extraordinaire. Mais il y avait cette idée de laboratoire informatique dans Reboot.
Oui.
Encore, je mets le gros caveat que moi, je m'en rappelle à peine de cette série-là. Mais qu'on avait l'impression que, bon, prenons cette dimension-là, cette variable-là, faisons-la interagir avec ceci,
mm-hmm.
et voyons le chaos déferler devant nous. Là.
Mm.
Ça faisait en sorte, encore... Je suis en train de taper sur la tête du clou là, de la dimension pédagogique de cette télésérie.
Ben, puis je pense que la meilleure représentation de ça, dis-je, c'est Enzo. Parce que Enzo qui commence en ayant...
Bart Simpson, tu veux dire? C'est ça? Je me trompe-tu?
De quoi?
C'est le petit... Bart Simpson.
C'est ça?
Les Bart Simpson? Oui, je vois
lien. C'est lui? OK, parfait.
Il est jeune, puis il y a une casquette.
Oui. Il est jeune, il y a une casquette.
Celui
qui a
Frisket. OK, c'est
bon. OK, en tout cas,
parce que Enzo commence, il y a même pas un an dans l'histoire, puis il a tout à découvrir, il agit souvent de façon impulsive parce que c'est un enfant, puis tout ça, puis il se fait un peu casser aussi par les expériences qu'il développe dans le jeu ou avec ses amis, puis il va finir par devenir adulte, puis il va être confronté... Alors qu'au départ, il était confronté par des problématiques, tu sais, quand même grandioses. Là, je veux dire, comme Mainframe va être détruit si je fais rien. Mais, tu sais, c'est des apprentissages de genre, tu sais, vaut mieux prendre son temps, il faut coopérer, il faut être gentil avec ses amis. Puis ça va devenir quand même aussi beaucoup plus intense où c'est comme, mais que suis-je, moi, en tant que, comme, quelle est ma valeur morale? Puis à quel point est-ce que mes choix, l'importance de mes choix qui sont comme des fois, justement, comme quand on parlait de l'épisode... quand on parlait de l'épisode number 7 de la saison 3,
où le rêve d'Enzo.
Le rêve d'Enzo, où est-ce qu'il va se représenter lui-même comme étant Megabyte, qui est jugé par ses pairs de par la lourdeur des actions qu'il a posées en se disant « Oui, mais j'étais pas mal intentionné quand j'ai fait ces actions-là. » Puis c'est comme « Oui, mais si, au niveau moral, si les actions que j'ai posées étaient moralement mauvaises, même si c'était pas dans une perspective de faire du mal, comme quelle valeur j'ai, moi, en tant qu'être existant, tu sais? » Ce qui est des questions philosophiques beaucoup plus intéressantes qui va donc avec la série qui grandit, qui va avec Enzo qui grandit, qui va avec la personne qui visionne qui grandit aussi, tu sais.
Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment très intéressant parce qu'effectivement, on est un peu pris avec ça à partir du game over. On peut le dire, dans saison 3, il y a déjà beaucoup de choses de très mal qui se sont passées. Ça commence à enfin aller bien et survient un game over dans lequel Enzo, Andrea et Frisket sont. Donc après ça, il y a une ellipse et on les retrouve beaucoup plus tard où ils ont énormément changé, surtout justement comme tu disais, le jeune Enzo qui parlait tout le temps, qui était vraiment une vraie pite totale, qui trippe sur à peu près tout et qui là est rendu un héros silencieux, un Renegade, qui est vraiment l'anti-héros par excellence, qui est très intéressant parce que nous-mêmes, on n'est pas trop sûr si on l'aime. Et le premier jeu qu'on voit quand ce sorte de reboot-là survient dans la série, c'est un jeu dans lequel ils sont les méchants, les aliens. Et le tout premier jeu de la série dans l'épisode 1, c'était un jeu de navette spatiale un peu comme ça, où là, on était les bons. Donc, on a vraiment un transfert qui est fait à ce niveau-là. Aussi, c'est quand même intéressant, quand on parlait, effectivement, le spectateur s'associe beaucoup à Enzo, mais aussi à Bob, qui est encore très jeune au début de la série, qui a encore énormément de choses, je dirais, à apprendre. Il est très impulsif et ça cause énormément de problèmes à travers la série.
Ben c'est aussi qu'il y a une mentalité diamétralement opposée à celle du Guardian Group.
Oui.
Bob, c'est le seul gardien qui pense que les virus peuvent être transformés en virus bénins, ce qui est-à-dire des virus bons. puis on a la preuve avec Hexadécimal qui devient un sprite dans la saison 4. Tout ça, ça amène Bob à reconsidérer sa programmation. T'sais, on peut parler d'un certain déterminisme dans une série qui elle-même est programmée par des concepteurs, ce qui est quand même assez intéressant aussi, parce qu'on le voit dans l'introduction à chaque début d'épisode, disons à partir de la saison 3, lorsque Megabyte obtient Megaframe, le début de la série, c'est Megabyte qui dit justement I'm a virus, blablabla, blablabla, mon but, détruire et corrompre. Fait que même au niveau de la narration, les méchants prennent le contrôle. En prenant le contrôle de Mainframe, tu prends le contrôle de la narration de chaque épisode dans une certaine mesure. Puis t'as même Hexadécimal à la fin de l'épisode 4 de la saison 4 lorsqu'elle tue Damon en se projetant dans le net et en se sacrifiant, ce qui est comme le seul personnage qui fait une action vraiment ultra héroïque au point de genre littéralement envahir le web pour détruire un autre virus. C'est elle qui obtient la narration finale de l'épisode durant les credits, où est-ce qu'à la fin elle a dit I'm Hexadecimal, Queen of Chaos, puis là il y a un des rires les plus machiavéliques que j'ai jamais entendu là. Fait que même au niveau de la narration, l'importance du contrôle de Mainframe garantit dans une certaine mesure le contrôle de la narration. Voilà. Je m'enferme dans mes fils. J'ai eu pas beaucoup de mots aussi. J'ai rêvé à reboot, mais c'était un peu mieux.
Hexadécimal qui fait tellement peur, mais qui est tellement un méchant. C'est le Joker là, de reboot.
Oui, non. Pour moi, c'est plus que ça. C'est de loin le meilleur personnage de la série reboot. Chaque fois qu'il est là rarement, et ça change complètement tout l'épisode. Un de mes épisodes préférés, justement, que je vais à tout prix parler, c'est Penton Window, qui est l'épisode où elle prend contrôle de l'application Pen de l'ordinateur. Et elle peut faire n'importe quoi et on se ramasse avec énormément d'expérimentations visuelles. On a le cri de Munch, la Mona Lisa qui apparaît de Vinci, les tournesols de Van Gogh, la personne de mémoire de Dali, le porteur de Rodin, tout le pop art, l'architecture à la Gaudi. Et ce serait intéressant parce qu'avec cette application-là, on peut faire du couper-coller, on peut effacer les choses, on peut répliquer les choses, on peut agrandir les choses. Et là, on joue vraiment avec tout ce que l'informatique permettait aussi à l'époque. C'est quand même vachement pratique. On le sait, on fait des travaux universitaires, du copier-coller. On peut pas imaginer.
C'est quoi ça, Paint?
On faisait. Ouais, c'est un peu ça le problème de l'informatique. Et c'est de plus en plus désuet.
En plus, Paint n'existera plus bientôt.
Non, ça a été annulé, ça.
Oui, c'est ce que j'entends.
Fait que ça va exister.
Oui, ils le conservent. C'est un programme tellement petit qu'ils ne s'en débarrasseront pas.
Génial.
Le Paint Fandom a parlé.
Ah, cool. Ça a pris même pas.
Je suis l'unique représentant du Paint Fandom.
Mais le plus important.
Fait que si j'ai Paint encore, c'est grâce à toi, Jean-Michel?
Ben, moi, en fait, c'est parce que je refusais de faire un update sur mes plateformes pour conserver Paint. Puis même que j'ai fait des backups de mon Paint parce que je l'aime beaucoup ce travail. Et merci de ouvrir cette porte et de me permettre de rentrer à travers. Ah ouais, ben là, je sais que vous avez parlé des fenêtres, puis il va falloir qu'on y revienne. Puis là, j'ai utilisé la porte à défaut. Il y a un épisode sur MS Paint.
Ouais, c'est Painted I would like Windows, to know more. saison 2.
Saison 2, épisode 5.
Ouais, c'est ça.
Mais Hexadécimal prend le contrôle de Paint, puis il décide, tu sais, un peu comme l'épisode où est-ce qu'elle transformait tout le monde en pierre, qui est dans saison 1. Dans saison 2, elle transforme tout le monde un peu en œuvre d'art. Elle redéfinit Mainframe, elle le redessine, elle le remodèle. Dot devient du pop art. À un moment donné, il y a Enzo qui est transformé en fenêtre.
Oui,
en fait,
partie des corps.
Qui devient une fenêtre, mais sa fenêtre, il devient capable de se dupliquer et donc d'avoir un impact en faisant comme des plateformes où
il est sur sa face.
Exactement.
Quand tu drag and drop des fenêtres quand ton Windows bug.
Là, son bras devient comme.
Comme l'escalier de. Ben oui,
exactement. Tu peux sauter dessus, c'est ça qui est génial. Il peut aider sa sœur Duff à essayer de canceller ce que Hexadécimal a fait.
Ouais, puis ça préfigure aussi que Hexadécimal va finir par se sacrifier à la fin de la série parce qu'elle voulait arrêter, à un moment donné, elle arrête de peinturer ou elle arrête même d'utiliser Medusa parce qu'elle voit que la ville va juste devenir plate puis que personne va être capable d'interagir avec elle.
Ce qui est dans
elle.
La saison 1, ouais, ce qui est la façon dont Bob réussit à la convaincre d'arrêter parce qu'il dit merci d'avoir rendu Mainframe aussi prévisible. Et puisque Hexadécimal est la représentation même du chaotique evil,
ouais.
Et comme pourquoi je rendrais un monde hyper hyper prévisible et hyper
stable.
Neutre. Moi, je dis qu'il est plus chaotique neutre que chaotique.
Mais c'est quand même ce que j'adore d'Exodestimal. Dès le quatrième épisode, elle gagne complètement. Elle a détruit complètement tout le système. Elle l'a entièrement infecté.
Elle est capable de le faire, là.
Exactement. Il n'y a aucun problème. Même, elle dit, elle a aussi un accès, une fenêtre directe au super ordinateur. Elle pourrait tout détruire du jour au lendemain. Mais elle trouverait ça plate. C'est là que je la trouve vraiment très intéressante. Tout le temps, Megabyte, qui est le méchant qu'on voit le plus souvent, essaie de faire ce qu'Exodestimal fait, mais il n'y arrive jamais parce qu'il n'y a pas sa puissance malgré toutes ses ruses.
C'est parce qu'il joue beaucoup avec les règles aussi. Oui. Tu sais, il utilise les règles de l'univers à son bénéfice. Comme le premier épisode de la saison 2 qui est Infected, où il va rentrer dans un upgrade. Oui. Il va se déguiser en upgrade. Fait que le user fait un upgrade. Mais vu qu'il est dedans, il réussit à rentrer dans le principal office qui est le core, et là c'est là qu'il dit, ben parce qu'à la fois lui essaie d'y avoir accès, mais les gardiens Fang tout ça le protège le core, puis il dit non, tu peux pas y aller. Puis lui, dans le fond, c'est son seul objectif, c'est de rentrer dans le corps, et il va par un virus cheval de Troie où est-ce qu'il se dit comme, je vais avoir l'air de quelque chose, mais finalement c'est moi et je suis dedans et je vais tout contrôler. Finalement, ben ça marche pas.
Mais il refait dans My Two Bobs aussi. Il se déguise en Bob parce qu'il joue sur les copies de personnages. Parce que plus tard dans la saison... Fin de la saison 2? Saison 3? Saison 3, il y a une deuxième copie de Enzo parce que le vieux Enzo s'appelle Matrix. Puis il y a un Little Enzo qui réapparaît lors du reboot justement de la fin de la saison 3 parce que Enzo avait son icône changée en Game Sprite. Donc l'ordinateur l'a pas reconnu, ce qui fait qu'il veut remettre Enzo à sa place. Fait que là aussi, il y a une espèce de jeu avec le petit Enzo qui doit rattraper ce qui a été, ce qui s'est passé dans la série. Fung lui donne un DVD de la série Reboot à écouter. c'est pas un DVD de la série Reboot, c'est un DVD de Tales from Mainframe qui est une émission faite par les binômes à l'intérieur de la série dans laquelle ils reproduisent les événements qui sont déroulés. Il y a aussi un exemple avec le Rolling Theater, Web Rolling Theater à la fin de la saison 3 qui font Everything is Alphanumeric, qui est une reprise d'une chanson d'opéra pour expliquer ce qui s'est passé dans la saison 3. Les fenêtres sont tout le temps là.
Puis on parlait de copie, j'aimerais aussi parler de complémentarité. C'est vraiment un point que je voulais à tout prix aborder dans l'émission, donc je me dépêche de rajouter dessus, mais ça, on fait un peu une certaine transition. Ce que je trouve absolument génial de la série, c'est ses personnages féminins. C'était pas si fréquent que ça à l'époque. Et le premier épisode commence seulement avec un seul personnage féminin, Dot. Après ça, quand on se rend au début de la troisième saison, après que Bob a été expulsé dans l'Internet par Megabyte, la majorité des personnages qui dirigent le principal office sont des femmes. Et des femmes vraiment excessivement géniales comme Mouse, Dot, Andrea.
J'ai un peu un goût doux amer du personnage de Mouse parce que c'est un personnage qui a été placé comme qui est vraiment cool, mais une des seules interactions qu'elle a avec Dot, le premier épisode qui est là, les deux premiers personnages féminins qu'on rencontre
et qui Exodestimal, oui.
À part Exodestimal, mais c'est ça qui vont se rencontrer, puis Dot, sa première réaction, c'est de faire « Ah ouais, Bob, t'as connais, comment ça? » Puis genre de jouer sur une espèce de jalousie de compétition féminine. Mais
Ça, c'est nul, effectivement, mais je te rappelle que dans le premier épisode où elle la rencontre, elle a quand même essayé d'effacer son petit frère Enzo.
Oui, mais ça serait une bonne raison d'être en tabarouette, oui, de dire comme « t'as essayé d'effacer mon petit frère, t'es qui toi, Colin? » Mais là, que ça joue sur comme « Ah ouais, genre, tu voudrais peut-être comme t'as-tu déjà eu un passé avec Bob? » Puis non. Moi, j'ai trouvé... Genre, avec mes yeux d'aujourd'hui, j'ai trouvé ça ordinaire.
Non, il y a des problèmes de genre, même Exodestimal qui représente le chaos et la folie, c'est très trop féminin, cliché d'une certaine manière. Alors que Megabyte est l'ordre, la puissance, un peu le côté hitlérien, ça reste quand même très genré. Mais pour moi, les personnages étaient quand même super et ça, c'est quand même quelque chose de bien pour une émission qui a été autant écoutée.
Mais faut pas oublier les personnages les plus camp de la gang, c'est tous les binômes. Les binômes qui ont aucun genre à la base, à part, comme on parlait tantôt, le bébé binôme. Comment faisons-nous des bébés binômes? D'où viennent les bébés binômes? Mais en mettant en époquet le bébé binôme, tous les autres binômes peuvent soit être mâles ou femelles ou s'identifier à un des deux genres en changeant leur voix, disons donc. Puis c'est ça, on le remarque aussi dans il change tout le temps selon l'environnement dans lequel il se retrouve, parce qu'à chaque fois qu'un binôme se retrouve dans un jeu et qu'il reboot, ce qui est à dire de prendre la fonction qui est donnée par le jeu, il reste dans le personnage, comme on peut le voir dans le premier épisode de la saison 3 lorsqu'ils sont dans un jeu qui est une reprise de Evil Dead, dans lequel ils doivent retrouver une page du Necronomicon, qui est pas le Necronomicon bien sûr, mais c'est ça, tous les binômes qui se reboot deviennent des zombies, mais ils agissent un peu comme des zombies, donc les binômes en tant que tels vont vraiment adopter la fonction pour laquelle ils sont programmés dans un jeu, mais après ça sont vraiment libres à l'intérieur de Mainframe d'être ce qu'ils voudraient être. Il y en a qui sont acteurs, il y en a qui sont reporters,
il y en a qui sont acrobates,
il y en a qui sont acrobates, il y en a qui travaillent dans le diner comme un sous-chef. T'sais, c'est vraiment, ils peuvent vraiment occuper une pluralité de fonctions pis de genres qui leur donne vraiment une espèce de rock camp à tout casser. Là.
Ils ont vraiment comme une certaine plasticité qui fait que justement ça permet la variabilité, je sais pas, tous les jeux qui finissent par émerger, puis j'ai oublié où est-ce que je m'en allais avec ça.
Je peux prendre la balle au bon. Enzo, une manée, se transforme en la princesse dans c'est le deuxième épisode, le troisième épisode. Où justement il y a tellement longue robe qu'il peut même plus se déplacer, ses pieds touchent pas à terre.
Mm-hmm.
Donc les rôles sont pas du tout inscrits à la base, c'est
mais
vraiment.
Qui devient la première fois qu'il rencontre Andrea, t'as Bob qui donne une classe de maître sur comment péter des jeux, genre.
Tout à fait, c'est génial.
Puis il dit comme, faites attention, vous allez arriver avec n'importe quel genre de costume. Rappelons-nous la fois où Enzo est devenu une damsel. C'était drôle en tabarouette, hein, que c'était une damsel. Et là, par la suite, t'as Enzo qui raconte à Andrea comme que lui et Enzo Matrix est un gardien, puis qui est vraiment hot, puis que son ami Bob qui a déjà été transformé en damsel, tu sais, comme justement que c'est repris quand même, que cette image là
est ridiculisée. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est cool avec les binômes, c'est que vu qu'il n'y a aucun genre à la base et qu'ils forment à peu près 90% de la population de Mainframe, ça fait que il y a justement ça passe de un à l'autre sans nécessairement qu'on se pose la question et sans que ce soit ridiculisé, parce que c'est juste comme des petits cubes puis des petites boules.
Ben, c'est littéralement un flux d'informations, ce qui fait que
c'est des 1 et des 0.
Exactement.
Là,
ouais. Et voilà. ça prend la fonction que ça l'occupe.
Tout est dans tout.
c'est là en plus sur la référentialité de rêve, parce que je viens d'écouter un épisode où il y avait un décompte, c'est dans la 4e saison, et le décompte est en langage binaire.
Ouais.
Donc on passe de 100 à 11, après ça 10, après ça 1. La série est quand même très très bien pensé, il joue beaucoup sur les propres codes qu'elle développe.
L'épisode du talent show où est-ce qu'il y a un humoriste qui raconte des blagues en binôme.
Ouais,
c'est absolument
génial. Puis là, fait qu'on comprend pas, mais ça, c'est long en plus, là. C'est vraiment appuyé, le 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Puis là, c'est super long, puis à la fin, t'as juste un silence, puis tout le monde qui part à rire, puis sont comme, c'est tellement drôle, mais t'es comme, hey man, c'était long pour ce gag-là, genre, mais bon.
Oui, mais la série essayait des choses, puis allait jusqu'au bout, même si effectivement, des fois, ça marchait pas pour nous. Ils jouaient quand même avec tout ce qu'ils pouvaient faire.
Tout à fait.
C'est ça aussi qui était bien avec les GameCube, c'était vraiment instaurer une bonne manière de faire l'expérimentation au sein des épisodes. Puis au début, on est plus dans des univers de jeux vidéo. Petit à petit, ça devient des vrais mondes d'intertextualité où on est plus quasiment dans des environnements. Je pense à l'épisode qui s'appelle Firewall, un épisode de la deuxième saison, qui est absolument magnifique parce que non seulement c'est la seule ouverture qui est pas narrée par un personnage qui reprend plutôt un effet à la James Bond, mais après ça, le jeu met en scène à la fois l'univers de James Bond, de Toy Story, des fous du volant. Donc on est vraiment dans l'univers des jouets, où on peut avoir beaucoup de choses. On a aussi la scène où il y a un T-Rex en os, comme on avait quand on était jeune, qu'on essayait d'assimiler, qui reprend exactement la scène de Jurassic Park où il renverse la voiture et attaque et mord la roue. Donc, puis il y a tous ces codes-là. Oui.
Dans cet épisode-là, la séquence d'introduction où le Père Noël fait du ski, c'est une référence au service de Sa Majesté en 62. Oh,
ça,
et la montagne qui est modélisée, c'est une reprise de la montagne de la scène qui est remodélisée en 3D. Fait que c'est exactement la scène de James Bond qui est reprise, mis en image de synthèse, puis en même temps on remarque ça confirme puis ça cristallise le fait que les sprites sont toujours souvent les méchants dans les jeux, parce que le user est un Père Noël qui fait du ski, puis c'est deux snowmen, c'est deux bonhommes de neige qui essayent de le tuer, puis ça rappelle un jeu de Nintendo 64 de ces années-là, parce que les références au Nintendo 64 pleuve. Parce que GoldenEye, GoldenEye qui est sorti en 95, en 96, le jeu est sorti. Le firewall au début, là, l'introduction avec la chanson, c'est une reprise de GoldenEye. Donc, puis GoldenEye a été un des meilleurs jeux qui est sorti au 64, je sais pas pour vous autres, là, non, mais ça a été un des premiers.
Ça marque la génération, c'est un des meilleurs shooters, et aussi le firewall à la fin permet d'enferrer le virus. Quand Jean-Michel parlait de représentation de l'informatique, moi quand je pense à un firewall, c'est clair que je pense à ce mur de feu-là, littéralement, qui emprisonne Megabyte dans son univers. Une chose aussi que je voulais aborder, c'est à quel point la série peut quand même être rough, surtout quand on pense que c'est à l'origine une série jeunesse. Quand, par exemple, survient le Game Over, l'épisode d'après, il y a quand même un 20 secondes de silence complet où tous les personnages font encaisser le coup et finalement, ça se redoute qui fait juste crier non. On a Megabyte, le virus, qui rit, comme c'était souvent le cas des Game Over à l'époque, et l'épisode finit comme ça.
C'est vrai, c'est, je me rappelle de cet épisode-là, puis ça finissait comme t'étais comme, ben voyons donc.
Non, c'est ça.
Mais vu que, je sais pas pour vous, mais tu sais, à un moment donné, quand on est enfant aussi, puis qu'on, tu sais, il y a moins une relation, puis que tout, puis vu que tout jouait en reprise, y a, comme la narration devenait comme un peu toute mélangée parce que on écoutait les épisodes, mais vu qu'on avait tout écouté une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, des fois il y avait des épisodes de par l'âge qu'on avait sûrement, ouais. Qui on savait qu'elle allait revenir, tu sais, il y avait pas comme mettons justement aujourd'hui où est-ce qu'on écouterait une série où est-ce que un personnage tu sais genre disparaît comme ça, t'es comme oh mon dieu, tu sais, alors que là c'est il y avait une notion je pense de narrativité, en tout cas que j'ai vécu avec cette série là puis probablement que d'autres personnes ont vécu avec d'autres séries qui ont écouté à cet âge-là où la narration devient complètement l'ordre devient putain important.
Non, c'est ça, puis si le personnage meurt, tu sais qu'il va revenir éventuellement.
Oui, parce que tu as déjà vu l'épisode où est-ce qu'il revient avant l'épisode où est-ce que tu vois où il disparaît.
Oui, c'est ça, mais ça, c'est vraiment intrinsèque à la TV câblée aussi.
Il y a aussi des choses qu'on sait qui vont arriver, comme on sait que Bob va finalement être retrouvé, on se doute, il n'arrête pas d'avoir des indices, l'épisode de Star Trek, on se demande si un des personnages serait pas finalement Bob. Finalement, il retrouve, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est tellement une belle scène. On sent toute la puissance de ce personnage-là rendu à ce moment-là où il fait juste arriver et régénérer Andrea. Après ça, il arrive dans cette sorte de monde détruit qui est rendu Mega Frame, un peu à la Terminator. Et enfin, il y a des pouvoirs de bouclier et il peut détruire à peu près n'importe quoi.
Mais c'est parce qu'il se fusionne avec Glitch. Fait qu'il y a une fusion du gardien et de l'outil. Puis je viens de remarquer qu'on a à peine parlé de la nouvelle série, ce qui est quand même le fun, dans une certaine mesure.
Je vais survivre la quantité de trucs intéressants qu'on a abordés.
Mais je veux sauter sur une chose dans la nouvelle série, dans le dernier épisode qui est disponible sur Netflix, je crois, pour ceux qui ont changé leur IP pour les États-Unis, parce que c'est ça qu'il faut faire pour avoir Reboot.
C'est ce que Reboot nous a appris.
C'est quand même triste pour une série canadienne qui sort d'abord aux États-Unis.
VPN,
je trouvais ça un peu triste, surtout que ça fait 10 ans qu'ils parlent d'un projet de faire quelque chose, puis elle sort d'abord aux États-Unis. Enfin,
this is bad. Very bad. OK, donc... Dans le 10e épisode de la série Reboot de Guardian Code, un fan qui ressemble au comic book guy des Simpsons est dans sa chambre et installe le jeu Escape from Alcatraz que nous avons tous écouté dans la première saison. Dans l'épisode, les gardiens humains sont dans Mainframe et doivent aider Bob à battre le jeu qui est Escape from Alcatraz. Mais dans la chambre du fan, il y a des produits dérivés de la série Reboot. Donc ça a soulevé des grands questionnements sur, un, est-ce que dans cet univers fictif, la série Reboot est-elle aussi une fiction? De un. De deux, si cette série-là est une fiction, si cette série-là n'est pas une fiction puis c'est déjà arrivé, comment ça se fait qu'il y ait des produits dérivés à l'intérieur de la série?
Il y en avait quand même eu, cela dit, il y avait juste sur PlayStation 1 et quelques figurines, des Polly Pocket, mais effectivement, c'est
ça, mais dans cet univers narratif-là, Bob existe. Donc, c'est quand même difficile de voir. Puis en même temps, si c'est vraiment cet user-là qui jouait à Escape from Alcatraz, ça veut dire que le méchant de Reboot, le user, c'est cet homme-là qui ressemble au comic book guy, qui dit à sa mère, oh, ma mère va enfin comprendre pourquoi je joue à des jeux. il est dans sa chambre seul, tu sais, il y a un peu de Cheetos sur le chest, parce que c'est comme ça que ça se passe, le gaming.
Le stéréotype est dans le tapis.
Ah oui, c'est la pédale to the metal.
C'est un peu vraiment le problème avec cette série-là, c'est que tous les stéréotypes, il y en a énormément ne sont que ça sur le tapis.
Dans la nouvelle, c'est oui, ça. Dans la dernière, il y avait une fonction narrative, une fonction heuristique, oui. Une fonction philosophique. Dans celle-ci, c'est du name-dropping pour faire du name-dropping. Merci, reboot The Guardian Code.
Mais tu vois, c'est... merci. C'est une fantastique conclusion. Je ne pourrais pas terminer sans... au moins accomplir le fait que j'avais, en fait, j'avais promis qu'il y avait une anecdote qui s'en venait à l'épisode dernier. J'ai dit, ah, c'est le fun, on fait son reboot, j'avais un affaire. Au New York Comic Con en 2006, j'étais dans une conférence où les créateurs de bande dessinée parlaient de qu'est-ce que c'est scénariser une série. Puis il y avait plein de gens qui ont travaillé sur le reboot. Marv Wolfman, qui est le créateur des Teen Titans, a travaillé sur le reboot. Len Wein, qui est le créateur de Wolverine, a travaillé sur le reboot. Brandon McCarthy, qui est un des plus grands hallucinés de la bande dessinée, qui a fait un truc qui s'appelle Spider-Man Fever, et un grand chaman, un homme vraiment, vraiment particulier, a travaillé sur le reboot. DC Fontana, une des premières femmes à avoir écrit, scénarisé sur Star Trek et Star Trek The Next Generation. Et la dernière personne, c'était un script consultant qui s'appelle Dan DeDio, qui est l'éditeur en chef de la maison DC. Il racontait que pour le dernier épisode de la troisième saison, le dernier épisode sur lequel il a travaillé, Endgame, ils se sont retrouvés après avoir livré l'épisode. Ils ont fait un rap party parce qu'ils pensaient que c'était la dernière saison. C'est le petit bémol que je rajoutais tantôt. Ils croyaient que ça se terminait de cette manière-là. Donc, ils se sont tous mis ensemble devant leur écran, puis ils ont fait « C'est le moment, ça se termine, il y a un crash, l'écran allume, et raconte que tout le monde dans la salle, en voyant le dernier épisode, tous les scénaristes, les réalisateurs, les consultants, ont toutes vu avec une énorme tristesse l'erreur qu'ils ont faite, parce que sur l'écran, il était écrit « Restart » et pas « Reboot ».
Il aurait dû marquer « Reboot ». « I come from the net,
through systems, peoples, and cities » to this place, Mainframe. My format, Guardian. To mend and defend. To defend my newfound friends, their hopes and dreams. To defend them from their enemies. They say the user lives outside the net and inputs games for pleasure. No one knows for sure, but I intend to find out. Reboot!